Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au téléphone, nous sommes en compagnie de Florent Turello. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des châteaux de la Drôme, donc présentez aux auditeurs les châteaux de la Drôme au niveau du département.
Oui. Donc les châteaux de la Drôme, ce sont la structure qui gère les 3 châteaux départementaux dont le propriétaire est le département de la Drôme. Donc ce sont les châteaux de Grignan, de Suze-la-Rousse qui est un peu plus au sud de Grignan et le château de Montélimar. Donc les châteaux de la Drôme assurent l'ensemble des dispositifs d'animation de ces châteaux, donc que ce soit les visites, la programmation culturelle et bien sûr la maintenance de ces lieux de patrimoine.
Alors, avec cette année problématique due à la Covid-19, tout est bouleversé pour cette saison estivale. Quels sont les recours que vous opérez actuellement ?
Eh bien, effectivement, déjà, c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. Déjà, au niveau des visites, puisque donc l'ensemble des châteaux ont été fermés pendant la période du Covid. Et là, nous commençons par pallier à réouvrir les châteaux. Donc ces réouvertures sont liées à une autorisation préfectorale. Et là, par exemple, pour le week-end de l'Ascension, nous avons réouvert les extérieurs du château de Grignan pour permettre au public de visiter les extérieurs. Et à partir du 28 mai, nous réouvrirons une partie donc du parcours de visite du château de Grignan et le château de Suze-la-Rousse. Donc bien sûr, nous avons mis en place l'ensemble des protocoles de sécurité qui permettent aux visiteurs de pouvoir visiter ces lieux en toute sécurité sanitaire. Mais aussi, nous avons pensé aussi dans ces dispositifs à ne pas oublier bien sûr le plaisir du visiteur et avoir imaginé de nouvelles animations, de nouvelles petites propositions pendant le parcours de visite afin de passer aussi un moment vraiment de plaisir, de magie et de découverte. Le dernier de nos châteaux, c'est le château de Montélimar, que nous réouvrirons à partir du 9 juin, un peu plus tard, parce que sur place, ça a été l'occasion de proposer un dispositif, un projet sur lequel nous travaillons depuis plus de 2 ans, donc un dispositif de visite jeune public qui s'appelle Château Labo et qui permettra à un jeune public ou à des familles de pouvoir visiter le château avec des dispositifs ingénieux, ludiques, qui vont vous replonger dans toute la vie du Moyen-Âge.
On peut rappeler aux auditeurs aussi combien de sites regroupent les châteaux de la Drôme.
Donc on a 3 sites principaux, donc Grignan, Grignan Suze-la-Rousse et Montélimar, et en sachant que il y a effectivement le château, mais aussi souvent des parcs autour. Alors par exemple, on a une grande garenne, un grand espace public végétal dans lequel il est très à Suze-la-Rousse, dans lequel il est très agréable de se promener. On a aussi des parcours de vélo, etc. À Montélimar, il y a au-delà du château un parc urbain qui est ouvert en journée, qui permet aussi de s'aérer, de se détendre dans un contexte plus urbain. Et à Grignan, donc à la fois on peut visiter le château ou les extérieurs, donc qui sont les jardins qui entourent le château. Alors au niveau des modifications, on peut aussi parler de la question de la programmation culturelle et théâtrale, puisque théoriquement, donc événement phare des châteaux de la Drôme, ce sont les fêtes nocturnes qui sont un grand événement théâtral au niveau de la Drôme, puisque les fêtes nocturnes, c'est une création théâtrale chaque année, c'est spécifiquement pour le château de Grignan et qui est joué devant la façade principale et qui est présenté chaque année 44 fois pour plus de 33 000 spectateurs. Et donc, cette année, on a été obligé, on était contraint d'annuler cet événement sur sa forme actuelle. Donc, nous avions programmé la création donc du spectacle qui s'appelle Fracas, C'était une adaptation du Capitaine Fracasse par Jean-Christophe Humbert. Donc ce spectacle sera proposé l'année prochaine, donc sur 2021. Voilà, alors pour le moment, on réfléchit à pouvoir proposer d'autres choses en termes d'animation, de soirées notamment. Et donc là, nous travaillons, alors les choses ne sont pas encore bouclées, là on est en train d'avancer, mais l'idée serait de proposer des visites nocturnes au château de Grignan, donc des visites nocturnes un peu surprenantes, un peu théâtralisées. Donc nous réfléchissons à monter sur l'été, sur les soirées d'été, une façon différente et surprenante de découvrir ce château.
En plus du spectacle vivant, est-ce que vous organisez des expositions au sein de ces châteaux?
Oui, tout à fait. Nous avons un certain nombre des expositions en tant que telles, mais aussi des dispositifs de visite qui évoluent. Alors, par exemple, nous avons une création au château de Suze-Larousse cet été, qui est donc le château de Suze-Larousse à son extérieur. Un jeu de paume, un espace, donc les vestiges d'un jeu de paume qui permettait à l'époque de jouer à ce jeu qui était, on va dire, entre le squash, le tennis, le badminton, voilà, avec quelques petites complexités, hein, mais voilà, en tout cas de redécouvrir ce jeu de raquettes et de balles. Et nous allons créer un petit espace d'interprétation à l'intérieur du château qui permettra à la fois de découvrir l'histoire de ce jeu de paume, mais aussi de pouvoir signifier, c'est-à-dire qu'on aura un jeu vidéo qui permettra de découvrir physiquement, vous voyez, sur un dispositif de type Wii, donc des sans contact, et qui permettra en tout cas de jouer au jeu de paume. Donc voilà, ce sont des nouvelles propositions là qui devraient. Alors c'est toujours un peu compliqué à cette époque de s'engager sur des dates parce que en termes de fourniture et de délai de réponse des prestataires sont toujours un peu mouvants. Mais je pense que ce nouvel espace lié au jeu de paume devrait être en tout cas disponible début juillet au château de Suze-Larousse.
Avec ce contexte de pandémie, certainement que les finances se sont abaissées au niveau des entrées ou des visites.
Oui.
Ça amènera une problématique pour cette année et peut-être l'année prochaine?
Bien, oui. Alors après, comment dire, les châteaux de la Drôme ne sont pas différents des autres. Des autres opérateurs économiques et touristiques, c'est-à-dire que, bien oui, on a forcément des difficultés économiques qui vont nous amener à voir les choses un peu différemment, à imaginer aussi de nouvelles choses. Et puis nous échangeons régulièrement avec les autres partenaires qui sont dans nos réseaux, des sites par exemple emblématiques Rhône-Alpes ou les opérateurs locaux de tourisme sur la Drôme provençale. Et ça veut dire que malgré tout, de toute façon, malgré les difficultés qu'on constate, il va falloir qu'on adapte l'offre, qu'on réponde aussi à un public différent, puisque le public, vous voyez, par exemple, les châteaux de la Drôme accueillent 20% de public étranger, globalement. Donc ça veut dire qu'en été, c'est un pourcentage qui est bien sûr supérieur. Ça peut être effectivement des Européens, nos amis belges, allemands, hollandais, mais ça peut être aussi des Anglais, des Australiens aussi. Nous avons des croisières avec des Australiens, aussi ponctuellement du public asiatique. Ça veut dire qu'une grande partie de ce public va disparaître pour une période qui est encore indéterminée. Et ça veut dire qu'en tout cas, pour en tout cas l'année à venir et peut-être pour plusieurs années, ça veut dire que nous allons aussi travailler avec des publics qui vont être différents, plus proches. Donc ça sera aussi des nouvelles découvertes et ça sera à nous aussi de nous adapter rapidement avec tous les acteurs du tourisme à cette évolution et pour essayer de limiter les conséquences de la crise. Et ça aussi, la solution viendra certainement du public. Alors le public nous répond, on le voit physiquement, quand on le croise, on a peu d'occasion de le croiser, mais là on a réouvert quand même hier à les extérieurs, ou sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de sympathie du public qui est attaché effectivement à la dépense du patrimoine, de ces actions culturelles, des événements comme les fêtes nocturnes. Donc ils nous font part régulièrement de leur soutien et nous disent de toute façon on sera là dans l'avenir et on tient à ces lieux et on pourra les faire vivre. Donc je pense que il y a aussi, je pense que tout le monde a compris que l'intérêt, notamment pour cet été, c'est de redécouvrir le département de la Drôme, qui a plein de richesses patrimoniales mais autres, et qu'on peut passer des vacances extraordinaires si on habite. Moi, je sais qu'y compris personnellement, qui habite plutôt dans le sud de la Drôme, j'adore aller dans le Vercors ou vers la forêt de Soue, etc. Donc, il y a des lieux de vacances qui sont extraordinaires. Et je pense qu'aussi, c'est peut-être l'occasion de redécouvrir des choses près de chez soi. Et je crois que la Drôme montre bien qu'elle a beaucoup de richesses. Et Radeau d'Iwa en fait partie également. Et le territoire du Diois également. Je pense que vous n'allez pas me contredire sur cet aspect-là.
Non. Grignan, Montélimar, Suze-Larousse sont des villes avec qui vous travaillez en partenariat pour ces ouvertures de châteaux au public. Est-ce que, au niveau de l'impact économique, est-ce que ça a une incidence dans le partenariat ?
Le partenariat, moi, ce que je sens, c'est que... moi, ce que j'allais dire apprécié, mais en tout cas, ce qui était appréciable dans le fonctionnement de cette crise, c'est que, en tout cas, pour le moment, on a constaté beaucoup d'actions solidaires au niveau de nos partenaires. Tout le monde a été concret, réaliste, et on a essayé de travailler ensemble pour faire des nouvelles choses demain. Donc on a tous des difficultés, mais pour le moment, en tout cas, les choses se passent plutôt bien dans le montage de partenariats. Et voilà, donc on n'a pas eu de... Pourtant, les choses sont difficiles et on n'a pas eu de difficultés, de conflits, etc. Donc pour le moment, l'ensemble des acteurs sont plutôt dans un sens de solidarité, de se serrer les coudes et de bâtir des choses pour demain. Donc si vous voulez, on est aussi dans une période où on reconstruit des partenariats, c'est-à-dire que oui, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire, mais c'est aussi l'occasion d'imaginer de nouvelles choses. De retravailler sur des nouvelles approches du patrimoine. Vous voyez, je pense par exemple à Montélimar. Ça fait un certain temps aussi qu'on avait des idées de plus utiliser le lien entre le château et la ville et ses richesses patrimoniales pour éventuellement imaginer un itinéraire dans la ville qui permettrait d'arriver petit à petit au château. Là, c'est aussi l'occasion peut-être d'avancer sur ce type de projet.
Les châteaux nécessitent aussi de l'entretien, de la préparation, de l'accueil public et puis aussi des visites guidées. Est-ce qu'il y a une inquiétude parmi le personnel actuellement ?
De toute façon, le personnel des châteaux est comme l'ensemble des Français, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr un niveau d'inquiétude. Ceci dit, l'esprit global qu'on a est pour le moment plutôt de se dire on réfléchit ensemble, on réfléchit à des nouvelles idées et on essaye d'avancer des nouvelles propositions pour que justement le public découvre des nouvelles choses et revienne vers les châteaux. Vous voyez, là, on doit ouvrir réouvrir les parcours avec des normes de sécurité sanitaire importantes. Donc ça fait tout un travail qui est, on va dire, plutôt méticuleux, qui est plutôt précis et qui est plutôt qui donne des normes, qui est normatif pour le public. Vous pouvez aller là, vous ne pouvez pas aller à tel endroit, vous devez agir de telle façon, dans cette salle vous ne pouvez pas rester trop longtemps, etc. Donc et par rapport à ça, le positionnement des collègues et des personnels avec qui on travaille est de dire il faut qu'on recrée de la magie, qu'on crée des nouvelles idées. Et là-dessus, vraiment, on travaille ensemble et tout le monde se mobilise et tout le monde imagine pour être tout à fait positif et à imaginer des nouvelles choses. Donc on se dit effectivement, à tel endroit, on pourra faire une petite médiation qui va durer 2 ou 3 minutes, on pourra parler de tel objet. Tel objet va nous manquer, donc on va organiser un déconfinement de certains objets, c'est-à-dire qu'on a aussi des réserves, des collections, donc on va essayer de déconfiner des objets qui étaient pas forcément visibles du public. Donc on imagine plein de choses et je pense que même s'il y a une angoisse sur le fond, la réaction principale qui est aussi très agréable à constater, c'est le fait de se dire on prend les choses en main et on va imaginer des choses et on va proposer des nouvelles choses au public qui vont les enthousiasmer à nouveau.
Ça, c'est dans le cadre de la faisabilité, hein, en fonction des budgets. Est-ce qu'il a été impacté ou est-ce que vous devez revoir votre copie pour cette saison 2020 ?
Évidemment que là, on a 2 mois et demi de fermeture. On a, vous voyez, les groupes, par exemple, étrangers, donc on risque de ne pas revoir. Est-ce que certains groupes qui viennent d'un peu plus loin pourront encore venir ? Des groupes qui viennent en quart, plus de 50 personnes, pour le moment, on n'a pas de réponse. Donc forcément, la structure budgétaire est changée. Donc c'est pour ça aussi qu'on a changé un certain nombre d'actions et de programmations au fil de l'année. Après, pour le moment, c'est trop tôt pour vous dire. Pour le moment, le but est de passer la crise, de passer l'année. Et puis après, on réfléchira aux nouvelles possibilités sur l'année prochaine. Mais pour le moment, vous voyez, on privilégie notamment tout le côté investissement. On a un projet au château de Grignan d'ouvrir un nouvel espace au deuxième étage du château, un espace qui, pour le moment, n'était pas visité. Donc, l'idée est pour le printemps 2021 d'avoir ce nouvel espace qui disposera d'une nouvelle scénographie et de nouveaux objets de collection. Sur ce projet, nous continuons à travailler et à avancer. Même si il y a forcément à un moment un recalibrage économique, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir maintenir l'activité au maximum et les propositions de nouveautés et surtout de pouvoir investir pour l'avenir.
Vous parliez de réflexion, d'imaginer les prochaines années. Est-ce que vous êtes ouvert aux propositions aussi qui émanent, par exemple, des milieux du spectacle ou d'autres activités culturelles ?
Alors, bien sûr. Donc déjà, nous, à l'intérieur des châteaux, on fonctionne sur un mode qui est très très collaboratif, c'est-à-dire que on fonctionne sur des réunions créatives et d'organisation qui concernent toutes les personnes qui peuvent avoir des idées ou proposer des choses. Avec nos partenaires, on a beaucoup aussi de liens avec des partenaires qui sont acteurs à l'intérieur des châteaux. On travaille régulièrement avec plusieurs festivals, soit le festival de Souchamp-Mozart, du festival de la correspondance de Grignan, de l'écrit à l'écran de Montélimar, où on imagine chaque année des choses ensemble. Donc là, bien sûr, on continue, même si les formats vont changer et on est sur une année atypique. Et après aussi, on a des démarches, on va dire, globales, c'est-à-dire, par exemple, le projet qu'on a sur Montélimar de Château Labo de dispositif de médiation jeune public, c'est un projet qui intègre dès le départ des partenariats et des idées du public. C'est-à-dire que au départ, on avait donc l'idée de monter ce dispositif parce que c'est un petit château qui permet d'être en sécurité. Donc on s'est dit, il faut qu'on l'oriente au niveau de propositions, au niveau du jeune public. Et donc on a travaillé pendant 2 ans à faire des petits camps pendant une semaine, 15 jours, où on a travaillé avec des enfants qui étaient accompagnés au niveau pédagogique, éducatif, etc., et avec un certain nombre de partenaires de la ville, et pour leur dire, écoutez, le château, imaginons que le château est à vous, que vous vouliez le proposer à d'autres enfants, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver ? Et donc, ils nous ont fait des propositions, ils ont réfléchi, ils ont regardé les questions historiques, et à chaque fois, ils ont émis plein d'idées. Donc, on a mené plusieurs camps d'infos, ce qu'on a appelé des enfants inventeurs, et qui ont créé un certain nombre de dispositifs. Et ces dispositifs sont mis en place petit à petit en lien avec des acteurs du territoire, c'est-à-dire qu'on a contacté des Fab Labs, on a contacté des associations historiques, etc. Et on les a mis en dialogue avec ces idées d'enfants pour dire qu'est-ce que vous pourriez proposer sur ces envies qu'ils ont ou les idées qu'ils ont eues, parce qu'ils avaient des fois des dispositifs assez élaborés, donc est-ce que vous pourriez le mettre en place et que ça devienne un élément de la visite du château. Et donc on travaille sur cette dynamique un peu globale et qui nous permet maintenant de proposer aussi un parcours assez complet, puisqu'on a des dispositifs qui maintenant depuis 2 ans sont élaborés et que nous allons présenter début au début juin, à la réouverture du château. Donc si vous voulez, une fois qu'on a lancé ce type de dynamique ou de réflexion collective, eh ben, elle s'alimente assez naturellement, et c'est pas parce qu'on a une crise que ça va arrêter les envies. Alors ça change un peu bien sûr les moyens, bah, tant pis, là le dispositif sera peut-être un peu plus simple, là on utilisera une planche plutôt que trois, mais en tout cas la dynamique reste là, et l'envie et l'intelligence de faire ensemble et de proposer des choses au public.
Grignon, les châteaux donc de Montélimar, Suze-Larousse, comment ont-ils pu retenir votre attention pour ce partenariat? Est-ce que vous envisagez d'autres châteaux à amener dans ce circuit?
Pour le moment, en l'état, donc la logique de gestion, nous, des châteaux de la Drôme, sont donc des propriétés du département. Voilà, et la structure juridique qui est un EPCC, c'est-à-dire un établissement public de coopération culturelle, rassemble dans son conseil d'administration à la fois des représentants du département, mais aussi des communes sièges, c'est-à-dire des communes de Montélimar, Suze-Larousse et Grignan. Donc pour le moment, le périmètre de ces châteaux est celui-là. Alors ça n'empêche pas bien sûr beaucoup de partenariats avec d'autres structures au fil du temps. Voilà, après la situation étant, peut-être qu'il y aura une réflexion effectivement pour faire évoluer des choses, mais au jour d'aujourd'hui, on est sur ce périmètre-là.
Et pour finir, une question, comment devient-on directeur des châteaux de la Drôme?
Eh ben, c'est une bonne question. Moi, si cette question, donc si elle renvoie à mon parcours personnel, moi je ne sais par quel miracle de constitution, moi j'ai toujours été, on va dire, dans le fonctionnement ou dans la création artistique ou dans des questions patrimoniales. Moi je suis né à l'époque à Viviers, à l'hôpital de Viviers. J'ai vécu jusqu'à 6-7 ans dans les rues de Viviers en Ardèche, qui est un lieu de patrimoine. Donc j'habitais dans le centre-ville, donc j'ai couru en étant tout petit dans des lieux qui étaient des lieux médiévaux, entre donjons, la cathédrale, voilà. Donc j'ai en tout cas toujours baigné en étant tout enfant dans des lieux qui étaient un mélange de pierre, de patrimoine, de mistral et de soleil. Voilà, ensuite dans mon parcours, j'ai toujours participé à des choses artistiques. Voilà, au collège, à 13 ans, j'étais dans des ateliers de théâtre. Ensuite, j'ai créé un journal. Après, j'ai 16 ans, j'ai organisé des concerts parce que j'étais aussi dans une formation de musique. Voilà, et ensuite, le parcours professionnel en tant que tel, j'ai toujours travaillé dans l'organisation culturelle, dans des communes, dans des départements. Et j'ai toujours eu à travailler dans ces cadres-là avec la multiplicité des métiers qui existent. C'est-à-dire que dans les filières culturelles sont très diverses, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi bien un projectionniste de cinéma que quelqu'un qui gère des livres dans une médiathèque, qu'un programmateur de théâtre, que des intermittents techniques, que des gens qui vont faire de la conservation d'archives ou de collections de publics de musées. Et donc c'est un schéma très large de profession. Et en fait, quand on pilote après les châteaux de la Drôme, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire que à la fois, eh bien, il faut aimer partager un patrimoine avec le public le plus largement possible, parce que notre métier sur le fond, c'est de faire découvrir et faire partager ces patrimoines le plus largement possible. Mais c'est aussi amener de la création artistique, amener du théâtre, amener des artistes pour faire vivre ces lieux et faire vivre un territoire. Et c'est aussi, en bout de course, gérer des filières qui sont très différentes. C'est-à-dire que dans les châteaux de la Drôme, on a aussi bien des techniciens de maintenance en électricité ou sur des points très précis de gestion des bâtiments. On va avoir aussi des conservateurs ou des personnes qui travaillent dans la conservation avec des normes très précises de sauvegarde des collections dont on dispose dans nos musées. Ça va être un programmateur, donc c'est des gens qui vont travailler dans le temps long. Et d'un autre côté, on va avoir des intermittents du spectacle ou des chargés de production de spectacles vivants qui vont travailler dans le temps immédiat, c'est-à-dire que le spectacle doit commencer au jour J à l'heure H. Voilà, donc tout un ensemble de métiers. Et puis grâce à mon parcours personnel, ben, je pense que j'ai eu l'habitude de travailler sur des métiers culturels très divers, d'aimer le patrimoine, d'aimer le spectacle et d'essayer surtout de le faire partager de la façon la plus large possible et de proposer à tous les publics, que ce soit des publics retraités, des jeunes publics, des publics de tout niveau culturel, qu'ils découvrent un plaisir à vivre un moment avec le patrimoine ou avec un spectacle ou avec une action culturelle.
Aujourd'hui, avec la réglementation comportementale due à la distanciation physique, est-ce que vous pensez, par rapport aux animations culturelles, vu que les châteaux ont récemment eu la permission d'ouvrir, mais ne pensez pas que les individus soient suffisamment responsables pour s'appliquer eux-mêmes cette réglementation?
Oui, je pense que, enfin, nous, ce qu'on constate pour le moment, c'est effectivement que les gens, que ce soit les gens qui travaillent dans les châteaux ou les premiers visiteurs qu'on a eus, puisqu'on a réouvert récemment les extérieurs de Briand, les gens comprennent, sont tout à fait responsables. Voilà, donc on peut effectivement imaginer que les choses se passent plutôt bien à ce niveau-là. Et que, à niveau réglementation, pour le moment, les groupes sont limités à, on va dire, 9 ou 10. En fait, ça fait des groupes de 10. Alors, nous, si on a un accompagnateur, ça fait 9 personnes du public plus 1. Je pense qu'il y a, nous, assez facilement, on peut aménager des choses pour respecter des distances barrières sur des groupes un peu plus importants. En termes de spectacle, il y a aussi des choses à imaginer. Voilà, donc effectivement, on peut, de toute façon, j'imagine qu'on va de toute façon dans ce sens-là et que petit à petit, les jauges vont s'assouplir, enfin, si la situation le permet, bien sûr.
Florent Turello, je vous remercie donc de nous avoir présenté les châteaux de la Drôme avec des organisations estivales dédiées au tourisme. Il y a un site internet pour visiter aussi.
Ah ben, tout à fait. Vous avez le site internet des châteaux de la Drôme. Vous avez aussi très utile le Facebook qui est très actif aussi ces derniers temps. Vous trouvez plein d'anecdotes historiques, tout le suivi aussi de notre actualité, Instagram, Twitter. Donc n'hésitez pas. Et en tout cas, ben merci pour votre accueil et pour votre intérêt nourri sur les châteaux de la Drôme en tout cas.
Eh bien, Florent Turello, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Eh ben, à bientôt. Merci de votre accueil. Au revoir.
Il faut lever le sortilège, des jaloux saboteurs ont jeté un sortilège, des jaloux saboteurs, il faut lever le sortilège, sortilège en voûte, sortilège en voûte, sortilège en voûte, il confond joie et bruit, il fait confondre joie et bruit, il confond joie et bruit, il fait confondre joie et bruit, je m'explique. Des jaloux saboteurs ont dit la joie fait du bruit. Des jaloux saboteurs ont dit musique fait du bruit. Des jaloux saboteurs ont fait confondre joie et bruit. Des jaloux saboteurs ont fait confondre joie et bruit. La joie n'est pas un bruit, la joie n'est pas une nuisance. La joie n'est pas un bruit, la joie n'est pas une nuisance. Marteau piqueur fait du bruit, machine outil fait du bruit. Les travaux font du bruit, les voitures font du bruit. La joie n'est pas un bruit, la joie n'est pas un bruit. Je m'explique. Français s'est mise à confondre la joie et la nuisance. Français s'est mise à confondre la vie et la nuisance. Français doit s'affiner, Français doit faire la différence. Français doit s'affiner, Français doit faire la différence. Il ne doit plus confondre la joie et la nuisance. Il ne doit plus confondre la vie et la nuisance. Chérissons le silence, il faut dorloter le silence. Il faut câliner le silence, il faut choyer le silence. La joie n'est pas un bruit, la joie n'est pas un bruit. La joie n'est pas un bruit, elle est une musique, je m'explique. Le voisin doit dormir, il faut respecter son sommeil. Travailleur doit dormir, il faut respecter son sommeil. Malade doit dormir, il faut respecter son sommeil. Fatigué doit dormir, il faut respecter son sommeil. Mais la joie est sonore, La musique est sonore, la jouissance est sonore, le ventre de la mer est sonore. Il faut lever le sortilège qui réveille les gens, qui fait se réveiller les gens, qui empêche les gens de dormir, qui gêne les gens pour dormir. La joie n'est pas un bruit, la joie doit bercer le dormeur, câliner le dormeur, enchanter le dormeur, faire rêver le dormeur. Des jaloux saboteurs, on fait voter des lois. Des jaloux saboteurs, on fait un sortilège pour faire taire les voisins, empêcher la joie des voisins. Il faut soigner ce sortilège, faut soigner cette loi. Que la joie ne puisse être réprimée par la police, que la joie ne puisse être réprimée par les voisins. Le jaloux saboteur a dit la joie est futile. Le jaloux saboteur voudrait qu'on se nourrisse d'être seul à la maison, d'être toujours dans le silence morbide de la télévision, de la passion, de la mort. La joie n'est pas un bruit, la joie est contre-poison. Elle est une énergie pour lutter dans le monde, réinventer le monde. Elle est communicative, à qui sait la recevoir. Le jaloux saboteur ne sait plus la recevoir. Il faut soigner le saboteur, il faut lever le sortilège. La joie doit triompher, musique doit triompher, la vie doit triompher, le rire doit triompher. Je m'explique.
Silence crée une angoisse, silence n'en dort pas bien. Silence veut toujours plus de silence, il ressemble trop à la mort. Français doit cesser de prendre des produits pour dormir. Français doit se droguer à la joie, à la musique. Ne doit pas réprimer ni sa joie ni sa musique. Français doit se droguer à la jouissance, à l'amour. Ne doit pas réprimer ni ses rires ni ses chansons. L'enfant est éduqué, il doit calmer sa joie. Le jaloux saboteur a dit il doit calmer sa joie. L'enfant est éduqué à taire son bonheur, à constiper son bonheur, à contrarier son bonheur. La joie est un aliment, le bonheur est un aliment. La joie est un aliment, nous sommes sous-alimentés. Des jaloux saboteurs ont décrété la nuisance. Des jaloux saboteurs ont manifesté le silence. Nous ont fait croire à la nuisance, nous ont fait croire au silence. Sortilège dit que le silence respecte le vivre ensemble. Que nous ne pouvons dormir s'il n'y a pas de silence. Que nous devons le silence à la société, le silence. Je crois moi qu'elle a besoin de joie. Je crois moi qu'elle a besoin de voix. Je crois moi qu'elle a besoin de jouir. Je crois moi qu'elle a besoin de rire.